Hervé Devecq qui est en direct avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la matinale, vous êtes donc un fin et grand connaisseur de l'histoire militaire de la région, particulièrement des deux guerres. Sortir une parution aussi importante, 300 pages, 250 photos, un siècle plus tard, c'est pour qui? Quel profil de lecteur?
Le profil de lecteur, c'est vraiment le grand public. Nous avons essayé d'être sérieux, scientifique et objectif, mais apporté de tout un chacun qui s'intéresse au passé de notre canton et du Jura bernois.
Et sur quel document vous êtes-vous basé pour écrire le livre?
Alors, nous sommes fondés sur un certain nombre d'articles, de publications dont j'avais été l'auteur dans le passé. On a fait des recherches aux archives et nous avons surtout fait des recherches très approfondies concernant l'iconographie. On voulait un livre très illustré parce que ça plaît au genre de notre époque et puis avec des photos si possible ou des illustrations inédites. Et grâce à des appels dans les médias, on a pu recueillir chez des privés des photos totalement inconnues et ça donne une belle iconographie à notre ouvrage.
Alors ces photos, elles viennent de quel genre de privés? Des gens qui avaient de la famille au front à l'époque, qui ont récupéré des photos?
Oui, alors c'est des photos, je dirais, de famille, de grand-père, voire de père pour les personnes les plus âgées, que des photos qui ont été prises sur le moment, sans aucune prétention, des photos qu'on peut vraiment considérer comme des sources historiques, parce que vraiment le but c'était de prendre un instantané d'une réalité perceptible par ces mobilisés.
Est-ce que par ce fait, votre ouvrage pourrait avoir une teneur ethnographique ?
À la limite, on pourrait parler d'ethnographie. Nous avons voulu aussi ne pas rester étroitement dans ce que les traditionnalistes appellent l'histoire militaire, c'est-à-dire l'histoire des batailles. On a mis en évidence la menace, on a mis en évidence les mesures prises pour faire face à cette menace telle qu'on la percevait à l'époque, donc ce n'était pas forcément la menace réelle, mais on la voyait comme ça. On a essayé de mettre en évidence la mentalité des Jurassiens et l'attitude des confédérés qui venaient à la frontière la garder. On pense quand même qu'en Ajoie, entre 1914 et 1918, toute l'armée suisse a passé.
Là, vous proposez un tableau finalement assez complet, avec des volets économiques, sociaux et culturels. Vous l'affirmez d'ailleurs que les soldats qui sont nés aux frontières jurassiennes, autrement dit toute l'armée, ont subi un choc culturel. Expliquez-nous.
Alors, un choc culturel, je pense particulièrement à un choc culturel de citadins qui arrivent dans une région rurale qui, soyons objectifs, avait un certain retard par rapport à la ville. J'ai l'exemple qui me vient à l'esprit le plus flagrant, c'est le régiment de Balleville qui vient faire une relève en Ajoie de plusieurs semaines. Ces citadins sont extrêmement surpris de voir que dans les villages, il n'y a pas l'eau courante, que l'on puise de l'eau au ruisseau, à la rivière, une eau qui n'est pas exempte de germes et de saleté. J'en veux aussi pour preuve que dans l'album de ce régiment balois, on a une grande photo sur deux pages du petit gardien de cochon de Bonfol, un pauvre enfant mal habillé, sale, qui a deux souliers différents aux deux pieds. Et puis là, on voit le complexe de supériorité du citadin face à une région rurale un petit peu arriérée par rapport à Bâle.
En revanche, est-ce que le citadin pouvait prendre les gens de haut, ou alors est-ce qu'il avait respect pour justement cette manière de faire et cette manière de vivre ?
Je dirais que la première réaction, c'est une réaction d'étonnement face peut-être au manque d'hygiène, à l'absence de certaines choses dont on a l'habitude en ville. Et puis, je dirais généralement, il y a quand même un sentiment de sympathie pour une population que tout le monde doit admettre comme cordiale, prête à supporter des sacrifices. Imaginez quand même dans un village où il y a 200 ou 300 soldats qui logent dans les granges, qui occupent des bureaux dans une chambre de la ferme, etc. Il a fallu supporter pas mal de choses. Et cette cohabitation s'est en général bien déroulée, c'est clair. que les paysans se plaignaient que certains exercices militaires détérioraient leur pâturage, que l'herbe était un petit peu écrasée par les soldats ou les chevaux, ou qu'on ne pouvait pas occuper l'école normalement. Mais en définitive, ce sont quand même des détails. La cohabitation a été, on pourrait dire, presque chaleureuse, qu'il s'agisse de troupes alémaniques ou romandes, je tiens à le souligner.